19. Balzac commençait à être moins fidèle au jardin. Il se partageait fréquemment, ce que ses meilleurs amis eux-mêmes ne surent pas tout de suite, entre cette résidence rurale et la maison de la rue Basse à Passy. Il ne serait pas impossible, on pourrait même dire qu'il est fort possible, qu'il eût un troisième et même un quatrième logement. Quant à la maison de la rue Basse à Passy, pour nous en tenir à celle-là, il fut un temps où il nous y invitait autant qu'au jardin. Plus tard, il nous invitait un peu moins au jardin qu'à Passy, puis nous n'allâmes plus qu'à Passy et les jardins décrurent à l'horizon. On évita même d'en parler. Nous avions vu si souvent Balzac se rembrunir quand il en était question que nous nous tîmes pour avertis. On en parlait quand il en parlait. Occupons-nous donc d'abord de la période d'alternative résidence par Balzac, tantôt au jardin et tantôt à Passy. La maison de la rue Basse, numéro 19, à Passy, a été fort exactement décrite par un excellent écrivain dans les pages intimes des mémoires qu'il écrit pour lui, en attendant d'être lu par tout le monde. Puissent ces mémoires n'être lues que bien tard, le plus tard possible, s'ils ne doivent être publiés que lorsque leur auteur ne sera plus là pour recevoir les éloges acquis à la lucidité de ses souvenirs que nous avons contrôlés nous-mêmes et à la franchise de son style de la bonne école française. Les lignes privées qu'on va lire, extraites des mémoires auxquelles nous faisons allusion, sont de M. Solard, autrefois directeur du fameux journal L'Époque. La plume est dans ses mains. Affligé de la direction d'un journal, dit M. Solard dans les mémoires auxquelles il s'emprunte pour enrichir mon travail, j'avais écrit à M. de Balzac pour lui demander un roman. Balzac me donna rendez-vous chez lui. Il avait eu la précaution, dans sa lettre que j'ai conservée, de me marquer le mot de passe pour arriver à sa personne. Il fallait demander à Madame de Brie. À l'époque de notre rendez-vous, Balzac habitait le village de Passy, rue Basse, 19. Je vais à Passy, j'affronte les pavés rabouteux de la rue Basse, qui est très haute, malgré sa dénomination hypocrite, et je demande au concierge de la maison, numéro 19, Madame de Brie. Ce concierge, méfiant comme un verrou, me regarda jusqu'au fond des yeux. À peine rassuré après cet examen, doublé pourtant du mot de passe, il murmura « Montez au premier ». Son regard sinueux m'accompagna longtemps en spirale. Ce ne fut pas par politesse. Je montai au premier. Au premier, je trouvai, plantée sur le carré, la femme du concierge. Elle faisait sentinelle au seuil d'une porte qui donnait sur un perron. « Madame de Brie, s'il vous plaît ?» Le perron avait double escalier. « Descendez dans la cour !» me dit la concierge. J'étais montée d'un côté, je descendis de l'autre, comme on le pratiquerait pour une double échelle. Au bas de l'escalier, je rencontrai la petite fille du portier, nouvel obstacle qui me barra le passage, nouveau recours au talisman, au « Sésame, ouvre-toi ». Pour la troisième fois, je répétai « Madame de Brie, s'il vous plaît ?» La petite fille, d'un air fin et mystérieux, me montra du doigt au fond de la cour une chartreuse lézardée, délabrée, hermétiquement close. On eût dit une de ces maisons solitaires de la banlieue de Paris qui attendent derrière leurs vitres chassieuses depuis un quart de siècle un locataire mythologique. Je sonnai sans espoir, convaincu que mon coup de sonnette au milieu de toutes ces poussières ne pouvait réveiller qu'une tribu de chauves-souris et de souris moins chauves. À ma grande surprise, la porte cria. Elle cria fort, par exemple, et une honnête servante allemande parut sur le seuil. Elle était vivante. Je répétais encore, « Madame de Brie ?» Une dame d'une quarantaine d'années, à la figure grasse, monacale et reposée, une sœur tourière, sortit lentement de l'ombre bleue et tranquille du vestibule. C'était elle, enfin. C'était le dernier mot de l'énigme domiciliaire. C'était Madame de Brie. Elle articula mon nom, qu'elle enveloppa d'un sourire béat, et m'ouvrit elle-même la porte du cabinet de M. de Balzac. J'entrai dans le sanctuaire. Mes regards se portèrent d'abord sur un buste colossal de l'auteur de la Comédie humaine par David d'Angers. Magnifique ouvrage, du plus beau marbre, chef-d'œuvre de ce sévère statuaire qui est resté le maître des maîtres dans la sculpture des portraits. Ce buste monumental était posé sur un socle dans lequel on avait enchâssé une horloge. Cela signifiait sans doute que Balzac avait vaincu le temps. Je suppose que l'idée était de David lui-même, quoique Balzac ne pécha pas par excès de modestie et fût bien capable d'être l'auteur du symbolique socle. On sait que sur le piédestal d'une statue en plâtre de Napoléon Ier, il avait écrit à la plume ces mots assez téméraires « Achevez par la plume ce qu'il a commencé par l'épée ». On voyait cette statue dans son logement de la rue des Batailles. Une porte vitrée, ouvrant sur un petit jardin planté de maigres massifs de lilas, éclairait le cabinet dont les murs étaient tapissés de tableaux sans cadre et de cadres sans tableaux. En face de la porte vitrée, un corps de bibliothèque. Sur les rayons s'étalaient dans un beau désordre l'année littéraire, le bulletin des lois, la biographie universelle, le dictionnaire de Bayle. À gauche, un autre corps de bibliothèque qui paraissait exclusivement réservé aux contemporains. On y voyait vos œuvres, mon cher Gozlan, entre celles d'Alphonse Carr et de Madame de Girardin. Au milieu de la pièce était une petite table, la table de travail sans doute, sur laquelle reposait un volume unique, un dictionnaire français. Balzac, enveloppé d'une ample robe de moine jadis blanche, une serviette à la main, essuyait amoureusement une tasse de porcelaine de Sèvres. À peine m'eut-il aperçu qu'il entama, avec une verve qui s'éleva de seconde en seconde à la note du fanatisme, ce singulier monologue que je reproduis scrupuleusement. « Voyez-vous, me dit-il, cette tasse ?»« Je la vois. »« C'est un chef-d'œuvre de Watteau. J'ai trouvé la tasse en Allemagne et la soucoupe à Paris. » Je n'estime pas à moins de 2 000 francs cette précieuse porcelaine, ainsi complétée par le plus merveilleux des hasards. Le prix me frappa d'un éblouissement subit. 2 000 francs ? Je pris la tasse par politesse, et un peu aussi pour cacher un sourire d'incrédulité. Balzac poursuivit intrépidement son exhibition phénoménale. Considérez, je vous prie, cette toile qui représente le jugement de Paris. C'est la meilleure du Giorgione. Le musée m'en offre 12 000 francs. 12 000 francs. Que vous refusez, ajoutai-je à mi-voix. Que je refuse net, répéta bravement Balzac. Savez-vous, s'écria-t-il en s'exaltant, savez-vous que j'ai ici pour plus de 400 000 francs de tableaux et d'objets d'art? Et l'œil en feu, les cheveux en désordre, les lèvres émues, les narines palpitantes, les jambes écarquillées, le bras tendu comme un montreur de phénomènes un jour de foire en plein soleil et en pleine place publique, il continua ainsi. Admirez, admirez ce portrait de femme de Palma le Vieux, peint par Palma lui-même. Le grand Palma, le Palma des Palmas, car il y eut autant de Palmas en Italie que de Miris en Hollande. C'est la perle de l'œuvre de ce grand peintre, perle lui-même parmi les artistes de sa belle époque. Altesse, saluez. Je saluai. Voici maintenant le portrait de Madame Greuze, peint par l'inimitable Greuze. C'est la première esquisse de tous les portraits de Madame Greuze. Le premier trait, celui que l'artiste ne retrouve plus. Diderot a écrit sur cette esquisse suave 20 pages délicates, sublimes, divines dans son salon. Lisez son salon. Voyez l'article Greuze, lisez cet admirable morceau. Ceci est le portrait d'un chevalier de Malte. Il m'a coûté plus d'argent, de temps et de diplomatie qu'il ne m'en eût fallu pour conquérir un royaume d'Italie. Un ordre du pape a pu seul lui ouvrir la frontière des États romains. La douane l'a laissé passer en frémissant. Si cette toile n'est pas de Raphaël, Raphaël n'est plus le premier peintre du monde. J'en demanderai ce que je voudrai. Mais l'obtiendrez-vous ? S'il y a encore sur la terre un millionnaire qui ait du goût, oui. Sinon, j'en ferai hommage à l'empereur du Russie. Je veux 1 000 000 ou un remerciement. Passons. Ce meuble d'ébène incrusté de nacre a appartenu à Marie de Médicis. Mombro l'estime 60 000 francs. Ces 2 statuettes sont de Cellini. Celle-ci est d'un Cellini inconnu du XVIIe siècle. Elles valent toutes les 3 leur pesant d'or. Passons. Passons. J'ai fait acheter à Pékin ces 2 vases de vieille porcelaine de Chine qui ont appartenu à un mandarin de première classe. Je dis vieille porcelaine de Chine parce que vous êtes trop éclairé, monsieur Solar, pour confondre avec la porcelaine simplement de la Chine. Les Chinois n'ont plus de cette miraculeuse vieille porcelaine depuis le XIIIe siècle. Eux-mêmes en donnent aujourd'hui des prix fous. Ils la font revenir de tous les pays européens qui en possèdent. Avec ces deux vases, j'aurai des millions et des torrents de dignité à Pékin. Mais c'est bien loin, mon cher monsieur de Balzac. Qu'on ne m'y force pas, toujours est-il qu'on m'offrirait vainement en échange la manufacture de Sèvres tout entière. Je sentis qu'il devenait indispensable de mettre le Gascon au diapason du Tourangeau, pour l'honneur déjà bien compromis de la Garonne, et je m'écriai à mon tour « Allons donc, la manufacture de Sèvres, vous y perdriez, monsieur de Balzac, vous seriez refait !» Mais pour loger toutes ces merveilles dont vous parlez si bien et que j'admire autant et peut-être plus que vous, il vous faudrait un Louvre. Je le bâtis, me répondit sans sourciller mon intrépide interlocuteur. Oui, je le bâtis. À la bonne heure. Vous calmez mes inquiétudes, monsieur de Balzac. La grande salle, la salle d'honneur, la salle d'Apollon, comme il me plaira de l'appeler le moment venu, me coûte déjà 100 000 francs.
100 000 francs?
Oui, monsieur, 100 000 francs.
C'est prodigieux.
Ce le sera. Tous les murs sont revêtus de haut en bas de malachite.
De malachite?
Comme qui dirait du diamant. Quelque incroyable que puisse paraître cette conversation, j'en affirme la complète exactitude. On se demandera peut-être dans quel but Balzac se livrait à ces exagérations gigantesques. On pourra même se demander s'il avait un but et s'il ne s'abandonnait pas tout simplement à la pente naturelle de son esprit, en plongeant ainsi dans cette mer sans fond de rubis, de perles, de topazes, de malachites et de sable d'or. Il faut bien que je l'avoue, je crois fermement que Balzac avait un but en me brûlant ainsi les yeux aux reflets rapides, chatoyants, de tous ces millions frappés à l'autel des monnaies des mille et une nuits et à l'effigie du sultan Haroun el-Shadir. Je venais lui demander de la prose pour mon journal, je n'étais à ses yeux qu'un acheteur. Je venais chez lui m'approvisionner de copies. Il avait fait ce calcul assez exact en général, mais faux en ce qui me concernait. Si je démontre à ce négociant que je suis millionnaire, il ne marchandera pas, parce qu'on ne marchande pas ceux qui n'ont pas besoin de vendre. Cette fois-ci, c'était lui qui agissait en marchand. Les rôles étaient changés, il fallait bien prendre celui qu'on me laissait. J'agis en artiste, et je l'estimais fort en acceptant du premier mot le chiffre de sa proposition. Marché fut conclu. Je me retirai, en emportant les épreuves curieusement raturées et surchargées, de la dernière incarnation de Vautrin, un des plus formidables chefs-d'œuvre de Balzac. Sans vouloir rien déranger à cette curieuse description du cabinet de Balzac, sans prétendre émousser un seul relief des délicieuses ironies qu'elle encadre, nous devons dire pourtant qu'elle laisse un peu trop le lecteur dans le doute sur la véritable valeur du mobilier de la maison de Passy. S'il s'en faut de beaucoup qu'il représentât une valeur aussi grande que celle que lui prêtait l'imagination orientale de Balzac, il lui avait coûté cependant de belles sommes. Quelques pièces justifiaient le goût de l'homme supérieur et attestaient surtout de réelles dépenses. Ainsi, le meuble d'ébène incrusté de nacre, dont parle M. Solar, et autour duquel Balzac tournait sans cesse des regards ravis, était une pièce digne du Louvre. Pour mettre l'admiration publique au niveau de la sienne, peut-être aussi pour un motif moins abstrait, il me pria un jour d'en faire la description dans un recueil où il écrivait quelquefois, désir qui fut immédiatement rempli par moi, à sa grande joie d'antiquaire. L'article parut même accompagné de deux riches dessins, d'une exactitude irréprochable. Peut-être le lecteur, heureux d'avoir une idée précise, quoique limitée, du mobilier de Balzac, nous pardonnera-t-il, à ce titre, de lui donner ici l'inventaire rapide des deux pièces sculptées, dont une seule frappa l'attention de M. Solar et dont Balzac nous chargea d'être le biographe. Ces deux meubles sont tout simplement ce que l'on appellerait de nos jours la commode de Marie de Médicis et le secrétaire de Henri IV, c'est-à-dire deux diamants de l'école florentine au plus beau temps des Médicis. D'une architecture élégante et pure, ces deux divins morceaux sont en ébène, veinés de filets d'or, La commode « Vrai meuble de Rennes » est à pans brisés, avec cul de lampe et basse tournée en spirale aux angles, des figures de sirènes incrustées en nacre chatoyante, comme toute la décoration, forment le centre des vantaux et des tiroirs. Au milieu d'arabesques et d'enroulements fleuris, d'une délicatesse miraculeuse, et comme en rêvent les ondines dans leur palais transparent, se jouent par centaines des oiseaux dont l'ornementation est telle qu'on les croirait colorés de tous les feux éblouissants que jette l'opale. 10 ans de la vie de l'un de nos plus célèbres artistes en incrustation ne suffiraient pas pour accomplir un pareil travail. Un seul morceau d'ébène recouvre cette commode armoriée aux armes de France et de Florence. La couronne qui domine l'écusson est celle de grande duchesse. Ce détail, si hautement significatif, donne à croire que ces meubles sont un cadeau du grand-duc François II à sa fille. Quel souverain pourrait aujourd'hui se permettre une pareille preuve de tendresse ? Le secrétaire est composé d'un avant-corps à 2 vantaux, chargé d'une tablette profilée, sur laquelle s'élève la partie supérieure, également divisée en 2 compartiments et terminée par une corniche d'une exquise pureté de moulure. L'ornementation de ce meuble, où les monogrammes de Henri et de Marie sont répétés sur les 2 étendards, est plus sérieuse que celle du meuble de la reine, mais d'une perfection non moins rare. Des trophées d'armes, des allégories guerrières, des têtes grimaçantes ou terribles remplacent la fantaisie plus gracieuse qui décore la commode. La prodigieuse habileté avec laquelle l'incrustation de ces 2 morceaux est obtenue est si effrayante comme résultat qu'on peut dire sans exagération qu'elle provoque le parallèle avec la mosaïque en pierre dure la mieux exécutée. Une singularité précieuse donne au secrétaire une incalculable valeur historique. L'écusson de Henri IV a été arraché d'un des vantaux et témérairement remplacé par l'écusson des Concini. Ce meuble a donc été donné au maréchal d'Ancre par la reine après la mort de Henri IV. Cette révélation, du reste, ne ferait que confirmer les suppositions des historiens et les malices des mémoires du temps. Maintenant, comme tradition, voici ce qui doit compléter l'authenticité de ce fait. Après l'assassinat du maréchal d'Ancre, ses dépouilles enrichirent, comme on le sait, la maison des Luynes. Or, c'est précisément en Touraine, et près de la petite ville de Luynes, que ce double trésor archéologique a été découvert. À notre avis, ces 2 meubles sans prix sur lesquels se sont appuyés Henriette d'Angleterre, Louis XIII et Gaston d'Orléans, ces 2 miracles de l'art au XVIe siècle, qui est lui-même un miracle, ces 2 curiosités, poétiquement historiques, sorties d'une chambre de reine, du palais d'un grand roi, auraient dû plutôt se retrouver dans le musée d'une grande nation ou dans le cabinet d'un souverain que dans le cabinet d'un homme de lettres. Que sont devenus ces beaux meubles depuis la mort de Balzac ? C'est ce que je ne sais pas.